Bain.
On va parler de sport dans ce journal avec un combat de boxe et une course colorée. On reviendra sur les discussions du 1er mai avant de faire un point sur cette première journée olympique. Le journal, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
On en sait un petit peu plus sur l'organisation du relais de la flamme olympique.
Eh oui Damien, le programme du passage de la flamme au Fénois se précise. Comme prévu, les festivités auront lieu le 13 juin prochain. Un événement exceptionnel qui va mobiliser des moyens tout aussi exceptionnels. Le relais qui passera par les communes labellisées terres de jeu, c'est-à-dire toutes celles de Tahiti, sauf Faa, aura lieu sur des tronçons choisis avec attention par les mairies. Chaque commune a prévu de célébrer son passage à sa manière, mais le cahier des charges imposé par Paris 2024 va nécessiter de gros efforts en termes d'organisation du trafic sur la seule route qui fait le tour de l'île. Un arrêté de réglementation de la circulation sera d'ailleurs pris pour permettre aux 350 gendarmes missionnés d'assurer la sécurité du convoi. Les précisions de Xavier Marotel, le secrétaire général du Haut Commissariat de la République en Polynésie.
D'une part, des interdictions de stationnement dès la veille au soir 18h sur tous les tronçons qui seront empruntés par le convoi de la flamme. Et puis au moment du passage des relayeurs, la circulation sera interrompue, donc il y aura des interdictions de circulation qui commenceront au moins une demi-heure avant. Voilà, peut-être un peu plus avant si on a un peu de retard avec les différents relais, mais au moins une demi-heure avant. Et on ne rétablira la circulation qu'après le dernier véhicule du convoi soit passé.
Voilà, si ces dispositions peuvent paraître lourdes de conséquences, elles ont pourtant été allégées en fonction des spécificités locales. C'est en tout cas ce qu'assure Teeva Caro Teaunoa, le chargé de projet de la cellule Tuarunui. On l'écoute.
Il y a plusieurs choses qui ont été négociées sur plusieurs niveaux d'ailleurs, même en parlant de la sécurité, si on doit commencer par là. Parce qu'au départ, les fermetures de route, c'était 3 heures avant. Donc c'est vraiment quelque chose au niveau de la construction qu'on a pu dire et on a pu argumenter en disant la faisabilité et la non-faisabilité des 3 heures. Et donc on est réussi à terminer à 30 minutes. Mais effectivement, après, on a souvent, même pour la célébration au niveau du chaudron, on a dû vraiment argumenter de ce qu'on voulait faire, de la façon dont on voulait le faire.
Voilà, et à l'entendre, les festivités autour de la flamme olympique telles qu'elles s'annoncent au Fénois ont fait l'objet de plusieurs tractations différentes selon les municipalités qui ont chacune leur spécificité. C'est le cas par exemple à Papeete où se courra le plus long relais le 13 juin. Les précisions du directeur général des services de la ville.
On a 5 km sur la commune de Papeete, donc Prince-Sinoy, le boulevard du Front de Mer. On va aller à Billy Bombich également. Juste à côté, on a bénéficié en étant terre de jeu d'un financement de l'Agence nationale des sports pour faire des terrains de basket et du ping-pong de plein air. Donc voilà, je veux dire, on profite aussi de cet événement pour réaliser des choses pour la jeunesse et pour le sport. Mais on a envie aussi que ça soit une grande fête. C'est effectivement un événement unique. Je ne pense pas que ça va se reproduire. Et on veut que ça soit une fête populaire.
Voilà, Rémi Briand au micro de Veitiare Pereire. Pour que l'esprit soit à la fête tout au long de la journée, plusieurs recommandations sont faites par les services du Haut Commissariat qui demandent à la population, mais aussi aux entreprises, de s'organiser en vue de cette journée qui s'annonce noire sur les routes. A noter que les collèges de Pire, Papeete et Faa seront fermés à partir de 13h30. Ce 13 juin, ce sera un jeudi.
Et puis, toujours côté sport, cette victoire de la FBPF.
La Fédération de Boxe de Polynésie Française, présidée, vous le savez, par Ismaël Tayata, et qui mène depuis de longues années maintenant un combat contre la Polynésienne Boxing Association de Tawitinena, qui sera l'organisme légitime et subventionné dans ce sport de combat qui attire toujours autant de jeunes Polynésiens. C'est là toute la question. Et les actes du gouvernement sont clairement allés ces derniers mois en faveur de la PBA, qui après avoir retrouvé son agrément, s'est vue accorder une délégation de service public en février. Une DSP qui justement avait été retirée à la FBPF en août dernier. La fédération a attaqué cette décision au tribunal administratif et a gagné mardi. Les juges estiment que les arguments mis en avant par le ministère des Sports ne tiennent pas la route. Naïma Temari reprochait notamment à Ismaël Tawata de ne pas avoir répondu à certaines missives officielles alors qu'elles avaient été envoyées à une mauvaise adresse. Bref, le retrait de la DSP est annulé, de même que les arrêtés de création de la fameuse commission ad hoc qui, souvenez-vous, avait été imaginée par le même ministère pour sélectionner les boxeurs des Jeux du Pacifique. La FBPF était la seule légitime pour cette sélection, estiment les juges, qui ont en plus annulé l'agrément accordé à la PBA. Alors, fin de partie pour Tawitinena. Eh bien, pas sûr, puisque ces décisions sont toutes susceptibles d'appel et que d'autres décisions ont été prises en février par Naïma Temari. Ismaël Tayata compte bien les attaquer à leur tour. On rappelle que le ministère des Sports, dans une interview à Radio 1, avait assuré que son action dans ce dossier n'était ni téléguidée par le Tavini, pour qui Tawitinena a appelé à voter, ni animée par une quelconque affinité pour l'ancien ministre dont le frère Purenena est un conseiller proche de Naïma Temari. La responsable reproche à la FPBF des irrégularités et des dysfonctionnements comptables. Il s'agit maintenant de les prouver.
On revient sur ces discussions syndicales du 1er mai.
Et oui, les grandes centrales du pays auxquelles se sont jointes certains syndicats représentatifs du public ont été reçues hier à la présidence. Elles avaient bien préparé cette fête des travailleurs avec une liste de revendications adressées quelques jours plus tôt à l'exécutif. On y parlait de fonds d'aide aux salariés licenciés, de CST, de faux patentés, de financement de l'habitat salarié, mais c'est sans surprise sur le pouvoir d'achat et la cherté de la vie que les échanges se sont le plus longuement arrêtés. Moëtei Brotherson et son gouvernement ont assuré être actifs sur le sujet. Des réflexions sont menées sur les PPN, sur la fiscalité bien sûr, et entre autres sujets, le président a aussi annoncé quelques mesures concrètes comme la mise en place de bourses complémentaires pour tous les étudiants ou des facilités réglementaires et financières pour la construction de logements intermédiaires. C'est loin d'être suffisant pour les syndicats. On écoute Patrick Galnon, secrétaire général de la CSTPFO.
On voyait bien que les réponses étaient difficiles. Nos revendications sont claires. Les réponses ont été moins claires. Parce qu'il faut étudier, il faut réfléchir, il faut se réunir. Ah, vous savez, ce genre de discours-là, j'avais l'impression d'être encore en campagne électorale. Ne vous inquiétez pas, on va faire ceci, on va faire cela. J'ai dit, mais je n'ai pas les réponses que j'attendais.
Voilà, le syndicat qui ont aussi interpellé l'exécutif sur un autre aspect du même dossier Vichère, les marges jugées abusives dans un certain nombre de secteurs. Moëtei Brotherson dit avoir déjà ouvert la discussion avec les patrons, qu'il a d'ailleurs rencontré dans l'après-midi d'hier. Seule mesure concrète qui pourrait être mise sur la table rapidement, le conditionnement des exonérations fiscales accordées aux produits locaux à des marges plafonnées. Mais pour la chef de file d'Otaï, Lucie Tifna, ça n'est pas assez. Le manque d'action sur ce sujet ne serait pas dû, selon elle, au manque de volonté du gouvernement.
Je pense qu'ils sont démunis parce qu'en fait, il y a aussi le patronat, il y a aussi des gros blocs là qui détiennent presque 12% du PIB de la Polynésie. Ceux-là, ils ne vont pas se laisser faire. Donc forcément, ça va être difficile pour lui de faire plier ces gens-là. Je pense que sur ce point-là, il est conscient parce que le Tamini, c'est ça. Bon, on leur a suggéré d'aller voir les marges et de contrôler les marges. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir le courage de le faire? Là est toute la question.
Voilà, Lucie Tifna, la secrétaire générale d'Otaï, à la sortie de la présidence. Hier, un autre sujet a occupé beaucoup de conversations dans cette même réunion, le matin comme l'après-midi d'ailleurs, le salariat déguisé. Ces travailleurs qui sont payés en tant que patentés par des entreprises qui les utilisent en fait comme des salariés. Sauf que le code du travail ne s'applique pas, qu'une partie des cotisations ne sont pas versées à la CPS et que la protection du travailleur n'est pas optimale. Pour beaucoup de représentants, côté patron comme côté salarié, l'affaire est simple. L'inspection du travail et son unique inspecteur œuvrant sur ce sujet doit être renforcé pour contrôler davantage et mieux sanctionner. Moëtei Brotherson, lui, n'est pas de cet avis.
C'est pas en augmentant le nombre de contrôleurs que vous allez trouver ces 6 000 à 8 000 patentés. C'est en ayant une meilleure connexion entre les systèmes d'information de la DICP, de la CPS et d'autres entités administratives qui n'existent pas aujourd'hui qu'on va pouvoir avoir cette liste.
Voilà, là encore une réponse qui ne contente pas les syndicats qui disent ne pas avoir eu de réponse escomptée sur d'autres sujets comme les fonds d'aide aux licenciés dont on parlait tout à l'heure, la crise de l'hôpital public aussi, et puis le soutien à l'OPT, au l'OPH. Plusieurs organisations se disent prêtes à faire monter la pression avec des mouvements à venir dans les prochains jours, les prochaines semaines ou bien les prochains mois.
Bon Charlie, il y avait tout de même une bonne nouvelle ce 1er mai.
Oui, il y en avait une, puisque la veille, le Conseil des ministres avait acté une revalorisation du SMIC applicable dès ce 1er mai, dès aujourd'hui donc, une hausse de 4 000 francs mensuels, soit 2,38%, qui porte le salaire minimum à 173 181 francs par mois. Mais plutôt qu'un geste, il s'agit d'une obligation pour le gouvernement qui s'est en fait tenu à l'application du Code du Travail. Code du Travail qui oblige l'exécutif à revaloriser le SMIC lorsque l'indice des prix a augmenté de plus de 2% depuis la dernière révision. C'était le cas, la dernière révision, c'était en janvier 2023.
On parle pour finir de cet événement sportif, festif et coloré ce samedi.
Et oui, c'est devenu un rendez-vous attendu par beaucoup. La Color Fun Run organisée par TRT est de retour ce samedi dans les rues de Faré-Outé. Une 9e édition qui reprend la recette à succès des précédentes. Un circuit de 2 km de course que les participants peuvent très bien effectuer plusieurs fois. Il n'y a aucun chronomètre ni aucun podium, mais beaucoup d'ambiance avec des stands d'animation, beaucoup de musique et surtout ces poudres colorées envoyées par les organisateurs et les autres participants tout au long du parcours. 2500 coureurs à partir de 6 ans avaient répondu présent l'année dernière et pourraient être autant voire davantage cette année. Les inscriptions ne sont pas terminées. Direction Intersport Faré-Outé ou Tahiti Sport Taravao jusqu'au jour même de la course, samedi matin donc. L'entrée est à 2000 francs. À noter que nous recevrons demain vendredi l'organisatrice de ces Color Fun Run, Maïli Faugera, en direct sur ce plateau puis celui de Thierry FM. Ce sera à partir de 8h. Voilà pour ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité, ce sera comme d'habitude d'habitude à 16h et ce sera pour le flash de la rédaction.
Merci Charlie, on passe à la météo sur Radio 1.